Bonjour, je suis avec Pierre-Élie Pibrac pour Death Memoria qui s'expose à la Galerie Dupont en compagnie de l'auteur qui présente ce projet aux ombres grises.
Bonjour Pascal, alors Death Memoria, c'est le titre de ce projet donc pour lequel j'ai vécu en fait 8 mois avec les derniers coupeurs de canne à sucre et ouvriers du sucre à Cuba. Ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur l'identité des Cubains à travers le prisme du sucre. Comme Cuba s'est construit autour du sucre depuis le XVIe siècle, ce qui m'intéressait, c'est de savoir où ça en était aujourd'hui et de parler de ces personnes qui sont totalement oubliées, qui ont cru en un idéal. Cet idéal s'est effondré et comme ils en étaient le symbole, ils sont restés dans l'oubli et on les a cantonnés dans ce milieu qui petit à petit se délitait et a fini par disparaître, qui est ce qui est leur quotidien. Et Death Memoria donc, signifie la capacité de quelqu'un de se rendre amnésique pour ne pas faire face à sa réalité.
Donc le contenu politique par rapport à Cuba s'exprime pleinement dans tes tirages, dans tes grands et moyens formats, hein, puisque tu fais un panorama, tu décris un panorama d'une des plus grandes usines de sucre. Et effectivement, quand on regarde de près avec de bonnes lunettes, on s'aperçoit que les corps, ils sont tellement inscrits que de loin, on ne les aperçoit pas. Donc ça, c'est une traduction in vivo de Death Memoria.
Ils se fondent totalement. Et en fait, on leur impose cet endroit de génération en génération. Ils étaient là, les usines ont fonctionné. Quand les usines sont arrêtées de fonctionner, ces immenses cathédrales sont toujours présentes, se détruisent. Et finalement, eux avec, pareil, ils se renferment sur eux et finalement finissent par être des ombres au milieu de ces paysages, comme tu vois, qui sont presque de détérioration fantomatique d'un autre temps. Et je voulais pas que le propos soit politique, mais par contre que quand on regarde l'image, ça nécessite réflexion et ça donne envie d'en savoir un petit peu plus, parce qu'on a tendance à se dire à Cuba qu'il y a une sorte d'esthétique de la ruine, c'est-à-dire qu'il faut y aller avant que ça change, ces palais magnifiques qui sont un peu en ruine, donc c'est esthétique. Et à côté de ça, dans 80% de la surface du pays, il y a ces gens-là qui vivent vraiment et qu'on ne voit pas même quand on sort des sentiers battus, et qui finalement sont la population cubaine. Et c'est ça qui m'intéressait. Et on parlait tout à l'heure du tirage, et ce que tu dis, donc ces personnes qu'on aperçoit si on se rapproche des images. Avec Thomas, ce qui nous importait, c'était d'arriver à faire ressentir ça à travers le papier, à travers la manière de tirer. Donc, de travailler sur que des nuances de gris dans un papier mat qui crée une sorte d'atemporalité. Je souhaitais qu'on ne puisse pas concevoir la notion de temps et d'époque à travers ces tirages. Et ensuite, voilà, comme tu fais, tu t'approches, tu regardes, et là, tu t'aperçois qu'il y a des gens, il y a quelque chose, il y a une sorte de pesanteur. Et voilà, pour moi, c'est vraiment fondamental que le tirage soit en pleine logique avec le sujet.
Et est-ce que ça te raccorde pas d'une certaine manière avec toute une photographie américaine de cette période-là de l'ange
De Walker Evans. Je te racontais une histoire assez dingue. Je suis parti vivre avec ma femme et mes deux enfants qui à l'époque avaient 5 mois et 2 ans et on avait trouvé un appartement depuis Paris à La Havane. Et quand on arrive, le proprio nous dit « il faut que vous partiez ». C'est sympa, on va se taper 10 heures d'avion avec un enfant de 5 mois. Enfin bref, il faut que vous partiez, finalement je ne veux pas le louer, je vous laisse 2 semaines. Et nous, on se met à faire du porte-à-porte pour trouver un appart, parce que là, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de téléphone, donc là, je n'ai pas le choix. Et ben chez un mec. Et c'est là où, tu vois, finalement, la galère t'amène à comprendre. Et j'avais pas du tout cette façon de travailler avant. Et ben chez un mec, je trouve une personne qui avait pour caler sa table 1933 à La Havane de Walker Evans. Et c'était sa cale de table, version originale. Et je lui dis, ça, vous avez un livre extraordinaire, vous devriez le sortir, gardez-le. Voilà, et je me mets à le feuilleter. Et je me dis, mais c'est ça. En fait, ce que j'ai vu, ce que j'étais allé voir une première fois une centrale, c'est exactement ce que je vois dans certaines photos Walker Evans. En fait, rien n'a changé. Et c'est même délité, tu vois. C'est-à-dire que c'est ce monde qui était construit un peu massif est toujours le même, sauf qu'il n'est pas entretenu, donc il s'effondre. Et je me suis dit, c'est comme ça, en fait, il faut que je traite l'image, pareil. Donc, finalement, si j'ai une de mes images, on se demande si ça n'a pas été pris dans les années 30 ou ça pourrait être pris en 2025. Alors, j'espère que pour Cuba, les choses vont changer, mais bon, c'est pas gagné. Donc,
c'est très bien parce que nous sommes rejoints par le
tireur, l'homme aux mains d'or.
L'homme aux mains d'or qui va se présenter lui-même et qui va nous donner un peu le timbre de la collaboration que vous avez sur la, vous avez eu sur la recherche des, de ce papier, de ces tirages assez gris, moyen et froid.
Voilà. Bon, bah, l'ordre Thomas Consagny, tireur depuis 1987, et j'aime à le dire, tireur de père en fils. Donc ça, c'est aussi, c'est important pour le, la manière de travailler avec les photographes, parce que voilà, mon père m'a aussi fait un œil par rapport avec lui, les photographes avec qui il travaillait. Et aujourd'hui, les photographes avec qui je travaille m'ont servi aussi à analyser et à comprendre ce que Pierrelli voulait. Et la première rencontre avec Pierrelli, quand il est revenu de ce reportage-là, ça a été de ne surtout pas voir les photos. Je voulais qu'il me raconte, je voulais, en fin de compte, entendre ces photos. C'est antinomique, puisque une photo, ça se regarde, mais moi, j'avais envie de les entendre. Et les entendre avec les mots, parce que c'est grâce aux mots que je peux faire des tirages. C'est pas... Alors, c'est grâce à l'image, évidemment, quand il y a des ciels, quand il y a des zones à maquiller. Mais ça passe en premier par les mots, et ça passe par les mots du photographe. Parce qu'il va utiliser une sémantique, ses émotions. Il va parler avec les mains, comme je le fais actuellement. Moi, en premier, je suis une éponge, et je vais complètement m'imbiber de tous les ressentis, de toutes les émotions de Pierrelli. Et après, voilà, une fois qu'il avait raconté, une fois qu'il m'avait conté ces histoires, là j'ai voulu là on s'est dit bon bah on va regarder les images et elles étaient bah enfin non pas elles étaient elles sont magnifiques. C'est je vais pas dire enfin c'est pas que je vais dire le contraire parce que certaines on n'est pas d'accord, on n'a pas choisi des fois les mêmes, il y en a qui m'aiment moins, d'autres plus, mais dans le message qu'il a voulu dire, voilà, moi j'espère, je pense que oui, parce que sinon il y aurait pas cette expo aujourd'hui, mais j'ai retranscrit exactement ce que Pierrelli voulait quand il a fait les photos. Ça a été par un choix de papier au début, on a mis du temps, on a pris du recul, on a pris du repos. Quand on ne trouvait pas le papier, il fallait comprendre pourquoi on voulait ce papier-là. Et puis après, il y a eu la démarche du tirage. Pourquoi on a tiré assez latent comme tonalité. Il n'y a pas de noir, il n'y a pas de blanc. On voulait cette gamme de gris et dans les noirs, et dans les blancs, et dans les gris. Ça, c'était capital.
Oui, ce qui donne un peu je dirais le ton, hein,
complètement,
de l'exposition, et qui fait qu'on rentre dans un aperçu d'un hors-temps, finalement.
C'est ça, il y a un côté intemporel. C'est intemporel, ça va avec... Alors, j'aime à dire aussi, par rapport à l'argentique et par rapport au numérique, l'argentique, on n'est pas dans l'immédiateté. On va prendre son temps. Et on retrouve à nouveau le côté intemporel. À partir du moment où on met le film dans son appareil photo et au moment où on a le tirage accroché à un mur, il s'est passé du temps. Et c'est cette démarche qu'on a voulu aussi avoir dans la recherche du tirage. On a fait des essais avant, et plus clair, et plus dense, et un peu plus contrasté, et un peu plus clair, et un peu plus doux, pardon. Enfin, toutes ces choses-là. Et le maquillage, pourquoi faire ressortir sur comment le premier tirage qu'on a fait, c'est-à-dire le soudeur, Pierrelli, voilà, moi j'avais fait ça, je me souviens, il m'a dit, faut que tu me renforces les deux. Alors là, je vous décris la photo, c'est un soudeur qui est assis. Il y a des points lumineux qui sont au fond, et il fallait les monter, mais sans les crever, sans les rendre trop gris. Et voilà. Et à un moment donné, on avait tout le tirage était pratiquement parfait. Et Pierre, il me dit, non, il faut qu'on éclaircisse le tuyau de gaz ou de je ne sais pas ce que c'est qui est sur le côté gauche. Voilà. Et ça réveille à un certain moment. C'est des petits points lumineux comme ça qui réveillent.
Oui, donc il y a toute une science du tirage qui est faite pour porter l'image au point où on veut la voir. Ouais. Donc c'est très intéressant, puisque tu parles de l'écoute comme mode de description premier pour entrer dans l'univers de la perception de Pierre-Henri, et ensuite de tout ce travail à l'intérieur de l'image pour essayer de restituer cette ambiance intemporelle. Donc je trouve ça vachement intéressant d'avoir passé par l'écoute, le conte, comme tu le dis, et jusqu'au moment où, par exemple, sur ce tirage-là, on voit très bien tout l'effort qui a été porté pour que cette image soit dans un non-contraste puissant, puisqu'on est à contre-jour, donc théoriquement on devrait avoir des blancs et des noirs, et qu'en fait on est dans une vision totalement raccord avec Walker Evans, avec Dorothy Lange, avec Lino Grande, et donc c'est intéressant parce que ça montre aussi comment, à partir d'une perception, ou d'une volonté d'agir dans un certain repère. Le calage de l'image, à la fois par la sémantique et l'esthétique, va prendre le pas sur le simple réflexe de faire des photos. Et donc, on s'aperçoit que cette exposition est dûment réfléchie et très construite. Alors que, paradoxalement, quand on arrive notamment au vernissage, la photographie se donne à soi assez magiquement. Donc, je pense que dans tout ça, il y a un parcours qui est assez sublime, d'une certaine manière.
C'est là où ça revient très important, la façon dont tu travailles avec Thomas, c'est que ce qui m'importe, c'est surtout de ne pas poser la manière dont je photographie au sujet, mais d'apprendre à photographier, et donc réapprendre à photographier avec les gens que je vais rencontrer. Donc, c'est pour ça que donc, je vais vivre longtemps et en famille. Et ça me permet de les comprendre, comme l'histoire que je t'ai racontée avec le livre de Walker Evans. Et tout d'un coup, je me dis, ben voilà, ça c'est logique. Et après, je vais l'imaginer comme ça. Donc, je vais avoir une appréhension du sujet aussi. Et eux vont me sentir de cette manière-là. Là, je pars au Japon pour 8 mois pour refaire un projet. Je dis, avec Thomas, on parle énormément. On essaie d'imaginer ce rapport qu'on va avoir et pour préparer des papiers, mais ce qui ne seront pas forcément les bons. Mais on a quand même toujours ça en tête. Et ça, c'est assez génial. Et pour te dire à quel point c'est intéressant là ce que tu viens de dire, on est complètement dedans, c'est que ce qui t'a surpris, c'est les grands portraits. Et qu'en fait, ces portraits, c'est eux qui sont venus vers moi comme ça. Mmh. Et c'est ce qu'on leur impose qui m'a donné cette photographie-là.
Oui, alors ce qu'il faut expliquer, que dans l'exposition, il y a en fait deux types de travaux différents. Mmh. Il y a ce magnifique reportage sur Cuba et ces grandes sucreries incroyables qui commencent à se déliter, et un travail de portrait beaucoup plus serré qui a été fait à la chambre en couleur. Mmh. Et qui sont en même temps partie prenante du livre tiré chez Barral, Des Memoria. Ouais. Donc, moi, j'étais pas tout à fait d'accord sur le fait que il m'a semblé que les tirages couleur appartenaient à un autre point de vue, un autre regard. Ils étaient plus proches de l'art contemporain que du travail magnifique que tu fais dans cette situation de Cuba.
Alors, je pense que les deux peuvent se mêler, et c'est génial. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de te revoir après cette discussion qu'on a commencé à avoir et que les choses nous ont coupées. Avec Xavier Barral, quand on s'est rencontrés, même discussion. On s'est revu, les rapports entre les couleurs, les noirs et blancs. Et tout d'un coup, il a pris le recul exactement comme nous on l'a fait. Et il a écouté les Cubains. Et là, il est revenu vers moi, il m'a dit, le livre, il faut qu'il y ait des couleurs. Et en plus, on va se surprendre et réalimenter la curiosité du livre avec ces portraits couleurs entre des noirs et blancs. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire noir et blanc couleurs, on va faire des noirs et blancs, des couleurs qui vont arriver, on repart sur des noirs et blancs, le texte, on arrive sur des couleurs, et ainsi de suite. Et comme ça, on resurprend, et dans le livre, on l'a composé comme ça, c'est comme une vraie histoire, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui va nous marquer, qui va être très différent du noir et blanc, qui va nous poser un peu, qui va être lourd, parce que c'est difficile.
Parce que la couleur, c'est la restitution du présent à ce moment-là.
Et voilà. Et pourquoi ça? Parce que quand j'étais avec eux, je les ai vus tous repeindre les murs de leur maison, entre le fin décembre et le 1er janvier. Et là, j'ai dit, mais pourquoi? Et mon assistant m'a dit, ils sont obligés de repeindre leur maison avant le 1er janvier, parce que c'est la fête, c'est la date anniversaire de la Révolution, donc tout doit être bien. Je suis allé les voir et j'ai pris ma chambre et je leur ai dit... alors, j'avais passé déjà 4 mois avant, et à chaque fois que j'allais voir quelqu'un, il partait. J'étais 8 fois en cellule. J'ai réussi au bout d'un certain moment à avoir un papier dans lequel il disait « C'est un artiste, ne craignez pas, enfin ne craignez rien, il peut être là. » Donc ça, c'était parfait. Et à ce moment-là, pendant 4 mois, toutes ces personnes ne m'adressaient pas la parole. C'était très difficile pour elles. Elles avaient peur de la délation, les choses comme ça. Et après, je suis revenu et je leur ai parlé de leur couleur, je leur ai parlé de leur maison. Je me suis dit, je vais leur redonner en fait la couleur. C'est-à-dire qu'on leur impose, mais je leur ai dit, qu'est-ce que vous voulez exprimer avec cette couleur? Les portraits, tu vois, il n'y a aucune ombre sur les portraits. Il n'y a que de la lumière naturelle et pas une ombre. Donc ils sont fondus, ils sont dedans, ils font partie de leur couleur. Ils ont été pris devant leur maison. Il y en a 42 différents qui représentent les 42 métissages, différents portraits de typologie née du métissage liés au sucre depuis le XVIe siècle. Donc tu vois, c'est une recherche anthropologique que j'ai fait pendant plusieurs mois là-bas. Et ensuite, comme ils n'avaient pas la capacité d'exprimer... Alors, il y avait déjà la chambre, c'était très long pour faire les images, et eux s'appréhendaient et s'appropriaient totalement l'appareil. C'est ce qui est génial avec la chambre, c'est que c'est tellement gros que finalement, ça ne devient même plus un appareil photo. Ça devient un outil pour tout le monde, qu'il y a un intermédiaire, que tout le monde s'y fait. Et donc, en plus, ça permet de les regarder vraiment dans les yeux au moment où j'appuie. Et là, le fait qu'ils prennent le temps, pour eux, c'était un danger, mais c'était une volonté d'exprimer qu'eux voulaient s'exprimer déjà. C'est-à-dire une volonté de montrer qu'ils voulaient s'exprimer. Et là, je leur ai dit, vous, qu'est-ce qui, pour vous, a marqué votre vie et vous a construit ? Fidel Castro, pas le choix, c'est Fidel Castro. Je dis, alors, choisissez-moi une phrase issue d'un discours de Fidel Castro. Ils ont chacun choisi leur phrase. Et cette phrase, elle est réincrustée dans l'image. Elle est répétée à l'infini, de en haut à gauche et en bas à droite. Et en fait, quand tu t'approches de la photo, tu t'avertis ce soir qu'en relief, tout est composé d'un texte en filigrane. Et ce texte, on ne le voit pas à la base parce qu'il faut qu'on fasse un effort pour aller vers le portrait, comme lui a fait l'effort de te photographier pour que tu puisses le voir. Et ça, ça m'intéressait vachement.
Ah oui, effectivement, parce que moi, je ne les ai pas vus, les filigranes. Hein.
J'aurais redonné la parole à travers le portrait.
Ah oh yes, ah ouais, d'accord. C'est, ah oui, c'est dans les blancs, donc c'est très très fin. Ah, c'est super, oui, absolument.
Il faut que ce soit subtil.
Ah ouais, c'est d'une subtilité, qu'il faut vraiment s'approcher du grand format. Ça tire à combien, ça ?
Là, 1m78, et tu me demandais pourquoi ces grands formats.
Ouais.
Alors, on aurait aimé avoir un petit peu plus de recul là, mais ces formats étaient déjà tirés, c'est par rapport au prix Levallois. Oui. On n'avait pas, en plus, tu connais l'histoire de... Donc, mais ça, c'est exactement la taille de sortie d'appareil. C'est-à-dire que quand on a le négatif, là, le fichier, et qu'on veut le tirer, c'est le rapport, ça donne ça.
Oui,
donc j'ai fait exactement au rapport de prise de vue.
D'accord. Ah oui, effectivement, maintenant je vois l'incrustation du texte, même dans les tons chers. On fera une photo de détail. Hein.
Et puis c'est ça, c'est la démarche. C'est la démarche aussi, en fin de compte, ce portrait où on voit ces portraits qui sont assez pastels, qui sont très doux. Et ça va avec le contraste, là je ne parle pas d'un contraste éthique, mais d'un contraste presque philosophique et de vie de tous les jours, c'est que ce texte de fidèles qui sont incrustés sur leur peau aussi, ça va beaucoup plus loin dans l'analyse, c'est-à-dire que voilà, ils ont aussi subi, vécu, ou vécu et subi avec ces textes de Castro, et c'est ancré en eux. Et c'est ça qui était intéressant aussi. De le fait de le poser et de le voir là-dessus. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça mais magnifique. L'idée est magnifique. Et l'idée qu'on ne le voit pas au début, c'est pas un gros tac qui a été écrit dessus. Non, il faut qu'on aille. On fait cet effort-là.
Je vais passer du m'as-tu vu. Ce qui était très important, c'est que tout le monde ne le voit pas. Parce que ce qui est important, c'est que le texte ne doit pas justifier la photo et son intérêt. C'est le portrait en tant que tel, parce que je reste photographe et j'ai besoin de composer avec les gens. Et de recréer un univers, une atmosphère, comme tu peux en parler avec les noirs et blancs. Donc, par contre, si toi, tu t'approches, tu prends le temps, tu vas les voir, tu regardes leurs yeux, tu dis, tiens, qu'est-ce que c'est ? Et là, tu rentres en discussion. Et la phrase est volontaire. Il n'y a pas de qu'on appelle ça de cartel, parce que volontairement, la phrase est en espagnol, parce qu'il y a la puissance de l'espagnol. Quand tu la lis, imagine-toi Fidel Castro rabâcher ça pendant 70 ans, 60 ans, comme ça, toujours les mêmes textes. Et eux ont appris à lire, écrire et parler avec des discours de Fidel Castro. Et il y a quelques photos, là je ne les ai pas mises dans le livre, mais il y a des photos, tu vois les élèves. Je suis allé donc dans 59 villes, avec 26 centrales qui étaient censées fonctionner, donc en vrai que 3 qui fonctionnaient réellement. Et à chaque fois, j'essayais d'aller dans les écoles. J'ai dû faire 4-5 écoles. J'ai jamais vu autre chose au tableau noir que des phrases de Fidel Castro ou de Che Guevara.
D'accord. Bon, ça donne une mesure de l'emprise du castrisme sur l'île. Hein, et depuis l'ouverture de Cuba... Est-ce que tu y es retourné véritablement ou...
Alors, j'ai une proposition de faire une exposition là, à La Havane. Donc ça, c'est très, très intéressant avec la Fototeca. Je suis très curieux de voir leur appréhension de ce projet. C'est parce qu'eux vont l'appréhender différemment. Comment ils vont me l'expliquer ? Parce qu'ils vont forcément se l'approprier. Ça, c'est assez intéressant. Sauf que les gens que j'ai photographiés, je suis allé les revoir et je leur ai offert le portrait à chacun. Et je vais leur demander de venir. Et ça va être intéressant de voir si ça se fait. Parce qu'on ne sait jamais, hein, tout est extrêmement variable là-bas. Bon. J'étais en 2016 et 2017 et je ne suis pas retourné depuis. Et on avait prévu ça pour 2021. Donc,
We're in time.
Voilà.
On devrait.
Oui.
Là, j'aimerais revenir deux petites secondes. Alors, on va faire un rétro-pédalage. Ouais. Revenir sur les noirs et blancs, pas tant parce que c'est mon métier, mais ce qui est intéressant, et moi, ce que j'avais aussi compris en démarrant les tirages avec Pierre-Élie, pas tant en voyant les photos, mais en démarrant les tirages, et pourquoi on a cette gamme de gris, on n'a pas de noir, pas de blanc, et quand il y a des humains dessus, et bien, en fin de compte, le décor est un humain. C'est-à-dire qu'on reprend le soudeur ou on prend la photo qui est au-dessus du soudeur et c'est dans une usine. On a ces deux, trois humains qui sont autour, mais on a tout le décorum qui est avec eux. Et ce n'est pas bloqué. On n'est pas parti dans des contrastes et dans des densités où ça va les enfermer. Et pour moi, tout le décor, que ce soit dans la rue, l'immeuble là-bas, que ce soit l'ombre ici... On a du détail partout parce que c'est un tout. Voilà, la photo, c'est pas que le personnage, c'est pas que l'usine, que le mur. On aurait pu le tirer vraiment en diagonale avec très très dense ici et très contrasté là. Non, tout fait partie, tout est humain. J'ai envie de dire.
Oui, l'instance n'est pas graphique ou photographique dans le sens où on fait intervenir des contrastes pour souligner les lignes. Mmh. C'est toute l'histoire d'un lieu et des gens qui y vivent.
Mais tu sais que quand on parle de Cuba, on parle de l'esthétique, de la couleur, mais aussi des ruines, de l'esthétique de Cuba. C'est incroyable, c'est qu'on parle d'une espèce d'univers lié entre la couleur, le rhum, le cigare, machin, mais c'est surtout l'architecture, enfin, tout ce qui est lié. Donc on le prend comme un personnage. C'est dingue, ils sont fondus dans cette mythologie de la ruine, en fait. Et là, quand je les ai photographiés, il n'y en a pas un sur toutes mes photographies, peut-être deux ou trois, mais franchement, qui sont vraiment de face et qui ne sont pas fondus dans le décor. Il y a toujours une disparition même. Ouais, on les voit, il faut faire attention. Tu vois, là, on peut les faire attention là. Il n'y a jamais vraiment une frontalité. Même la personne qui est de face, finalement, il disparaît. Là, il est légèrement de profil, il se retourne.
Ouais, il y a une dissimulation.
Voilà. Et là, et c'est pour ça que j'en suis arrivé. Ça va prendre un ensemble. Oui. Et au moment où j'arrive, donc imagine, je suis avec mon petit télémétrique et tout. J'arrive et tout d'un coup, ils savent que je les photographie. Là, le mec, il se met dans un état de tension. Ah, mais il se surplace. Toujours contre le mur. Ils sont
tétanisés. Ils
se rigidifient. C'est se demandent comment ils vont paraître. Mais sauf que comme je les prends dans l'instant, ils n'ont pas le temps de réfléchir à leur rapport avec l'appareil photo. Et donc, tu vois, dans ces visages, il y a une...
Tu vois sur celle-ci,
que ce soit la femme avec son bébé qui dort dans sa cuisine, dans sa pièce à vivre, ou que ce soit l'homme de dos qui est dans sa chambre, on pourrait dire que la photo elle est autour de cet homme-là ou autour de cette femme avec l'enfant, tout est humain, tout est là. Le décor fait partie de l'humain et l'humain fait partie du décor. Et c'est ça, c'est important.
Oui,
et
puis il y a cette photo, par exemple, des éviers, là, c'est super, parce qu'en même temps, on voit bien qu'il y a des problèmes d'eau, etc. On discerne dans la pauvreté du lieu, dans le fait que tout soit jonché sur ce piano, sur cet établi, on voit bien qu'il y a une présence de la misère. Mais en même temps, il y a une vraie poésie qui est due, je pense, à la lumière. Et là, il y a un peu de contraste quand même.
Là, on était sur un vrai intérieur-extérieur avec un soleil à 40. Oui, c'est vrai que...
Mais c'est vachement beau, hein, en même temps.
Il reste la douceur dans les blancs.
Oui, il reste la douceur.
Ce qui était très, très important, c'est que j'ai un profond respect pour les Cubains, parce que déjà, on a vécu avec eux. Mais surtout, ils sont très fiers. Et ils sont conscients de leur identité et ils ont une confrontation permanente du fait qu'ils ont eu leur indépendance par Fidel Castro, mais que ce rêve, cet idéal s'est effondré et qu'ils en ont subi les conséquences. Mais ils sont tellement fiers d'avoir leur pays, c'est-à-dire que Cuba, c'est la première fois qu'il appartient aux Cubains. Ça, il faut vraiment l'intégrer. Donc je voulais vraiment, vraiment, vraiment pas faire une photographie misérabiliste et pointer le doigt sur des humains. Il fallait qu'il y ait une poésie et que le titre Des Memoria pointe la douleur, mais que la photographie les accompagne et nous accompagne dans une volonté de discussion et pas du tout de regard et de pointer du doigt d'occidental sur par exemple un Cuba. C'était très important.
C'est pas une critique sociale, c'est pas une critique humaniste, c'est pas, et il y a pas de pathos dedans. On n'est pas on en sort. J'ai envie de dire quand Pierre-Élie dit fier, attention, pas fier au sens très français. Fiers comme un bar tabac. Non, ils sont fiers, ils sont heureux d'être cubains. Malgré, oui, une certaine pauvreté, malgré, oui, une dictature assurée,
une douleur et une perte de conscience de ce qu'ils sont réellement. Parce que en tant qu'individu, c'est ça, l'individu et la société, il y a une vraie différenciation. C'est-à-dire que c'est un chaînon, ils sont chacun un chaînon d'une chaîne qui est Cuba, et ils ne peuvent pas s'en dissocier, parce que s'ils la cassent, ils sont responsables de la chute d'un parti qui leur fait comprendre qu'il ne faut surtout pas... Qui se casse, donc d'où la délation et un pointage du doigt permanent. Et pour revenir sur ce que disait Thomas par rapport à ce côté qui n'est pas dans l'humanisme ou le pathos, ce qui est important, c'est ça. Donc, une identité, donc ils sont fiers dans le sens où ils ont la conscience d'être cubains et que c'est un peuple fort et un pays qui a une histoire forte, mais qui vivent quand même dans un monde oublié dans lequel ils veulent trouver leur place. Tu vois. C'est ça qui est compliqué. C'est une confrontation permanente, c'est une dissonance cognitive totale. En fait.
Et je voulais qu'on revienne rapidement sur le texte, parce que là, on est déjà...
Oui.
Voilà, oui. Alors donc, est-ce que tu peux présenter le texte qui est dans le livre de Barral?
Ah oui, le texte, c'est Zoé Valdés, donc voilà. Une écrivaine cubaine qui nous fait l'honneur d'écrire pour le livre. Et ce qui est très puissant, et ce qu'elle nous a raconté avec Thomas et moi-même, c'est qu'en fait, quand elle a vu les images... lui est revenu ce moment des Diez Millones. Donc les Diez Millones, c'est en 1970, quand le parti a imposé à tous les Cubains de participer à l'effort collectif de la culture de la canne à sucre et de sa transformation. Et elle, en petite fille, elle y a été à 10 ans, et elle a dû aller sur les champs, et elle raconte cette histoire-là, extrêmement dure. Et là, Zoé est revenue pour nous raconter cette exposition à travers sa vie, c'est sa vie en fait. Elle est complètement confondue avec sa littérature, avec son écriture. Donc, et c'est là où elle nous a avoué que les photos lui ont remémoré ça. Donc on est parti de la desmemoria vers la mémoire de l'oubli. Et je trouve que le titre de son texte est très beau, parce qu'elle avait par conscience oublié cette réalité, et que ces images de la démémoire, finalement, lui ont rappelé cette enfance, et elle a voulu en parler, et que c'est la première fois de sa vie qu'elle en parle. Et donc, elle nous a fait l'honneur qu'elle soit dans le livre. Et ça, c'est très, très beau.
C'était émouvant. On sentait qu'elle elle revivait, voilà. Elle revivait, et on la voyait. Elle pointait du doigt, elle agitait le poing comme ça. Et le mot, c'était, je crois, quand elle disait, elle parlait quand elle était au champ, elle disait difficile, difficile, difficile. Elle l'a pas dit deux fois. Elle a dit 7-8 fois difficile, difficile, comme ça. Et tu sentais qu'elle vibrait complètement et qu'elle elle repartait. Il y avait cette abnégation qui n'était plus. Et elle le dit, voilà, grâce à ces photos-là, grâce aux photos de Pierre Hilly, il y a eu quelque chose qui s'est passé à nouveau en elle. C'est beau.
C'est un superbe compliment en même temps la qualité du travail qui a été fourni dans l'ensemble.
Je dis qu'il y a une vraie pertinence finalement dans le travail qu'on a réalisé, et que son appréhension finalement qu'on a eue après aussi dans sa présentation a touché Zoé, pour une Cubaine, donc l'a renvoyée dans sa propre histoire. Et parce que Zoé a vu les images sur des tirages, parce que c'était important, je ne pouvais pas lui envoyer. Ce serait sympa qu'on puisse se voir, tu vois, chez Xavier Barral, et que je puisse vous montrer les tirages. Et là, le choc s'est passé, elle ne m'a rien dit. Tout d'un coup, elle a écrit ce texte aussi. Et là, elle a avoué, elle a expurgé ce qu'elle avait, tout ce qui s'était passé en elle, depuis la vision de ces photographies.
D'accord.
Le pourquoi de ce texte, tu vois, c'était je me dis qu'il y a une logique qui s'est créée, qui est très touchante.
Oui, tu as déchiré le voile du temps d'une certaine manière, on dirait. Voilà. Ouais.
Surtout pour elle qui n'est pas revenue à Cuba depuis 30 ans.
Ouais.
Pour elle, ça, elle m'a dit, ça n'a pas changé, c'est plus triste, mais ça n'a pas changé. C'est un quotidien qui était exactement pareil il y a 30 ans.
Alors voilà. Pour terminer sur un nouveau projet sur le Japon, en quelques mots, voilà, puisque l'on initie une nouvelle séquence.
On part avec ma femme et les enfants pour 8 mois, on part le 29 décembre pour 8 mois au Japon. J'ai plusieurs idées en tête. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le rapport intergénérationnel au Japon en 2020, aujourd'hui. Et j'essaie de travailler dessus à travers la conscience que les Japonais ont du vide. Et ça m'intéresse beaucoup. Alors, ça ne va pas être des photos de vide, tu vois, mais je pense qu'il y a un rapport social lié à cette notion.
Au Tao et au Zen.
Voilà,
très bien. Bon, on te souhaite bon voyage au Japon et magnifique suite à cette exposition qui se termine, je crois, bientôt.
17 janvier.
17 janvier avec une grande. Je pense qu'il y aura une prolongation due au succès de l'expo.
En tout cas, félicitations, c'est un super boulot, hein, à la fois Thomas, tireur chevronné, et de l'auteur photographe qui a sillonné le monde pour nous ouvrir les yeux sur plusieurs choses qui sont fort intéressantes. Et bonne vie au livre.
Ah, merci beaucoup.
Merci à vous. Merci.